12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui à deux séries un peu plus actuelles, deux séries sur ce qui embrase l'opinion et déchaîne les esprits. La fièvre, par le scénariste de Baron Noir Éric Benzekri, c'est sur Canal+, et Outreau, un cauchemar français sur Netflix.
Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Adrien Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Critique de cinéma et auteur, face à vous Nora Boisouni, bonjour Nora.
Bonjour.
Journaliste indépendante et présidente de l'association des critiques de séries. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture.
Et on commence avec La Fièvre, créée par Éric Benzekri et réalisée par Ziad Doueri sur Canal+.
Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot.
C'est le tout bon. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc?
Foy Détiam est un cadre respecté de l'équipe de France.
Mais c'est encore pire.
Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
En deux jours, l'intensité de la crise a explosé.
Un coup de boule et voilà que Sam Berger, communicante de génie, fortement angoissée par la perspective d'une guerre civile en France, est appelée à la rescousse. L'enjeu, faire en sorte que ce coup de boule, agrémenté d'un sale toubab, sale blanc, d'un joueur de foot noir à son entraîneur blanc, reste dans la bulle passionnelle du sport et ne soit pas récupéré à coup de racisme anti-blanc par la fachosphère. Fachosphère avec pour figure de proue Marie Kinski, stand-upeuse d'extrême droite qui souffle sur les braises des ressentiments identitaires. Pour sa deuxième création en 6 épisodes, le scénariste Éric Benzekri ne s'intéresse pas à la politique pure, ce qu'il avait fait avec la série Baron Noir, mais à la fabrique de l'opinion. Réseaux sociaux, médias, militantisme, comment s'embrase l'opinion? Et si prise d'une fièvre sectaire, le pire, la guerre civile que redoute tant Sam Berger, était à venir? Qu'en avez-vous pensé, Adrien Desnouettes?
Alors, je dirais que la série m'a principalement déçu. Ça peut paraître un peu, voilà. Je vais expliquer pourquoi elle m'a déçu. J'en ai pas simplement pensé du mal. C'est qu'en fait, la série, je l'attendais pas mal. J'apprécie énormément, et je vais commencer par ça, les ambitions de la série. On parle quand même du créateur de Baron Noir, qui est une des meilleures séries Canal+. On parle de quelqu'un qui a connu, je pense que c'est important de le dire, qui a connu une réorientation professionnelle. C'est quelqu'un qui a été militant, qui a fait ses classes dans le militantisme plutôt socialiste.
Qui était collaborateur de Mélenchon, de Julien Drey.
Julien Drey, la branche gauche du Parti Socialiste, qui en a tiré une série avec Baron Noir. Ça a été une période d'adaptation très longue où, en fait, cet auteur nous raconte qu'il a énormément regardé de séries américaines, en fait, les meilleures références de la série internationale. Et il les cite, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à citer ses références, les Sopranos, The West Wing, Aaron Sorkin, évidemment, grosso modo ce qui s'est fait chez HBO aux États-Unis et que Canal essaie de refaire. Et avec du succès, dont ce qu'il avait fait sur Baron Noir, qui était vraiment plutôt pas mal. Donc j'attendais forcément cette série avec beaucoup d'attente, notamment parce qu'elle avait l'ambition de croquer un peu le contemporain sous l'angle des réseaux sociaux, sous l'angle de cette espèce de climat inflammatoire qu'on sent tous, et vraiment qui n'est pas du tout halluciné, et surtout sous l'angle de la paranoïa de notre époque. Ce que je trouve vraiment très intéressant. Et je pense qu'effectivement, c'était le bon casting, c'est-à-dire ceux qui avaient fait Baron Noir, avec cette exigence-là, pour le faire. Le problème, et c'est pour ça que je suis content d'en parler, le problème c'est qu'en fait, je constate quoi? Que la fiction française, la série française, pourtant tenue par certains des meilleurs fers de lance, en reste à son âge infantile. J'explique pourquoi. Il y a un très grand contraste entre ces ambitions-là, qui en fait vont regarder du côté des meilleurs qui sont américains. Les ambitions sont américaines. Mais le résultat est très français. Et pas
c'est quoi un résultat très français?
Un résultat très français d'abord, c'est...
Voir un résultat infantile.
Alors je dirais que si je devais être le plus méchant, et je vais l'être, le plus cruel, c'est que d'abord il y a un problème, il y a beaucoup de défauts de fabrication. D'abord, je pense, dans le degré, le fossé de professionnalisme qui nous sépare à tous les niveaux, même dans l'interprétation, même dans le jeu avec les Américains. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'en fait ce qui nous intéressait, et ce qui nous intéresse toujours et ce qui nous passionne, ce qui nous fascine dans ces grandes références auxquelles on va puiser, les Sopranos, The West Wing, Aaron Sorkin, c'est pas simplement les recettes d'exécution, c'est pas simplement des détails et des soucis formels, un perfectionnisme ou un professionnalisme, c'est pas ça. Ce qui nous fascine, c'est l'ambiguïté morale de ces personnages. C'est de nous avoir fascinés pendant 6 saisons avec le plus gros monstre qui était Tony Soprano. C'est-à-dire qu'on s'est accroché, on s'est attaché moralement à des monstres et on savait qu'ils étaient des monstres. On a eu du souci pour eux. Et les Américains ont su nous faire ça sur des Odyssées pendant, parfois pour certaines saisons qui atteignaient des dizaines de saisons. On n'a jamais su le faire. Et là où cette série pêche, c'est justement là. C'est dans son idéalisme, dans son manichéisme.
En fait, c'est une série morale?
C'est une série, oui, bien sûr que c'est une série morale. Toutes les séries sont morales.
Il y a Samuel Berger qui est donc l'héroïne du côté du bien et Mary Kingsky, son ennemi, qui est autrefois sa meilleure amie, qui est donc le mal incarné.
Vous avez un personnage principal qui est gentil et qui est idéaliste, pourquoi pas. Et de l'autre côté, vous avez un personnage qui est méchant, cynique et méchant.
Nora Boisouni.
Alors, je peux pas laisser Adrien dire que la fiction française est au stade infantile, qu'il y a une forme
l'enfance de la série après l'enfance
voilà,
de l'art.
Ça n'est pas possible. On n'est pas en 2000, on est en 2023. On fait des
24,
séries.
24.
Je suis encore plus loin. Je sais pas, on refuse dans le passé. On est en 2024. On a des séries exceptionnelles qui n'ont pas à rougir de la comparaison avec des séries britanniques ou américaines. Et d'ailleurs, arrêtons de comparer HBO à la fiction française. La fiction américaine, ça n'est pas HBO. Une fois ça posé, je dis ce que je pense de La Fièvre. Je rejoins complètement Adrien sur le manichéisme des personnages. En fait, ce que j'ai apprécié, d'abord, je vais commencer aussi par ce que j'ai aimé dans cette série. J'ai aimé qu'on s'intéresse à ce sujet, la théâtralisation du débat médiatique, la polarisation du débat. On en parlait il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, sur l'essai La Société de la Fatigue, de l'hyper-réaction, demander systématiquement tout le monde doit réagir.
Ah, c'est de Byung-Chul Han, un philosophe allemand.
Et on avait parlé de ça, de réagir à quoi, à qui, pourquoi. En revanche, j'ai aimé aussi qu'il pousse les curseurs. En revanche, c'est cartoonesque. Je trouve que les personnages, effectivement, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils. Les naïfs sont très naïfs. Il y a beaucoup d'angélistes, notamment avec le personnage de Faudé et le personnage de Sam.
Donc Faudé,
c'est le footballeur
qui a donné le coup de boule.
Qui traite son coach de sale blanc, de sale toubab. C'est cartoonesque. Il y a une forme d'artificialité dans cette série qui m'a beaucoup déplu. Et je sais pourtant le travail qu'Éric Benzekri a fait derrière. Il est allé assister à des réunions de communication de crise, il est allé assister à des réunions dans les clubs de foot, donc il a fait un travail de vérité finalement pour que ça colle au plus près du réel, les façons de parler, mais on reste ça sonne faux. Moi il y a un côté vraiment très théâtral qui sonne très très faux, j'ai vraiment l'impression que c'est trop écrit. Alors ça a le mérite d'être didactique puisqu'on ouvre, on vulgarise des concepts de psychosociologie comme la fenêtre d'Overton et là c'est quand même assez bienvenu, mais et puis d'ailleurs chapeau à Nina Meurice
qui interprète Samuel Berger.
Ouais, qui sont aussi des tartines de textes,
théorie de la com,
de théorie, etc. Il y a une forme de jouissance aussi de tirer le fil jusqu'au bout qu'Éric Benzekri fait de qu'est-ce que, en fait, en psy, on pourrait parler de pensée catastrophique, c'est ok, c'est quoi le pire qui puisse arriver. Et ça, j'ai trouvé ça assez jouissif d'aller au fond des choses. Mais ce côté faux m'a vraiment déstabilisé, j'ai eu du mal à apprécier la série pour ça.
On va revenir sur ce côté catastrophiste où le moment où vraiment la série explose, moi personnellement je l'ai beaucoup aimé, ce moment où vraiment on envisage le pire, c'est la dystopie qui est en marche, mais juste avant ça j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'idée que cette série, ce qui est appréciable, c'est qu'elle permet d'élucider le réel, c'est-à-dire la fabrique de nos opinions, la manière dont des tweets sont mis en avant, la manière dont le débat est polarisé, la manière dont un événement qui n'a rien à voir avec la politique, même s'il y a une dimension politique est récupérée. Par exemple, les théories, la fenêtre d'Overton, donc qui consiste à dire qu'une opinion inacceptable, inimaginable, comme par exemple manger des humains, devient acceptable parce qu'elle est rebasculée dans le débat. C'est ce qui va se passer dans la série avec une autre opinion dont je ne parlerai pas. Bah ça, par exemple, c'est quand même des outils incroyables d'élucidation du réel. Ça vous a pas touché, ça, Adrien ?
Si, bien sûr. Et c'est ce fossé-là qui me semble le plus problématique. C'est-à-dire vraiment le contraste très très important entre le travail plein d'acuité du travail documentaire qui a été fait pour vraiment essayer de saisir, de croquer l'instantané de notre société, mais évidemment en poussant les curseurs parce qu'on est dans la fiction. Et ça, c'est un travail qui est vraiment extrêmement convaincant. C'est-à-dire que tout ce que vient de citer Nora, c'est-à-dire tout ce qu'on met en fait dans la bouche de manière effectivement un peu trop artificielle et qui est très difficile à assumer par les acteurs, c'est-à-dire tout ce pensum et ce travail documentaire qui a été très bien fait par les auteurs de la série, c'est vraiment intéressant. J'ai appris des choses littéralement en socio-psychologie, en politique. J'ai même appris que nous étions effectivement probablement en grande partie manipulés par des intérêts techno-capitalistes qui sont très très bien décrits. Le problème, c'est qu'à cette très grande acuité vient répondre une immense naïveté dans le traitement des personnages secondaires et même principaux. Je vais vous donner un exemple très précis. À porter au compte de la série, la très bonne idée d'avoir compris qu'en fait l'un des seuls endroits où toute la société pouvait se polariser et se cliver comme ça, ce serait le foot. Et la série a la très bonne idée de réunir trois affaires en une. c'est-à-dire le coup de boule de Zidane, il s'agit quand même d'un coup de boule, qui a eu lieu en 2006, c'est-à-dire il y a bientôt 20 ans. L'affaire Anelka, où un joueur avait insulté son entraîneur, 2010, et beaucoup plus tôt, je dirais que le personnage principal de Faudetiam est plutôt, en fait, dans son côté irruptif, dans le côté l'opinion se polarise, en fait, il évoque plutôt Karim Benzema. Où vraiment, Karim Benzema était un sujet qui, encore aujourd'hui, fait couler de l'encre et polarise les débats. Mmh. Or, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la grande différence entre ces trois affaires? C'est qu'entre-temps, le monde a changé, puisque les réseaux sociaux se sont invités ici et ont permis à tout le monde d'exprimer leur point de vue. Et donc ça, c'est un portrait qui est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette série? Le basculement d'un siècle à l'autre. Et c'est très intéressant d'avoir choisi le foot pour le faire. Sauf que...
J'attendais la nuance.
Bah, le milieu du foot, pardon, mais je m'y intéresse un tout petit peu au foot. Moi, je trouve que dans la fiction française, et là, je vais en revenir, des tares que je considère qui sont celles de la fiction française, on ne sait toujours pas représenter, croquer le foot de façon crédible. On en est toujours au stade, pardon, je vais être très méchant, mais Didier d'Alain Chabat dans la représentation du monde du foot. On en est toujours à ces clichés d'entraîneurs avec un accent marseillais, à ces clichés de footballeurs un peu traités de manière angélique, alors que s'il avait fallu montrer une espèce d'équivalent de Anelka d'aujourd'hui, il serait complètement entouré d'une bande de copains, ce serait pas un bon père de famille avec sa petite famille en Yvelines. Je veux dire, il y a vraiment un travail d'angélisation qu'il faut apprendre, dont il faut se déprendre dans la fiction française. Et si, pardon, mais on a le droit de comparer, de dire qu'il y a une fiction française qui regarde la fiction américaine quand on voit notamment ce que cet auteur-là, et je suis d'accord avec lui, regarde. Il le dit. Il assume de vouloir faire presque du Aaron Sorkin. Sauf que Aaron Sorkin, il suffit pas de faire parler des personnages et leur faire débiter des gros blocs de discours. Il faut aussi mettre en scène ça. Et c'est là que je dis que c'est hyper méchant de ma part, mais j'ai le sentiment que nous n'avons pas encore atteint déjà le plaisir de l'ambiguïté morale des séries qui sont celles qu'on préfère, et aussi le travail d'industrialisation de la fiction française qu'il faut pour les mettre en œuvre.
Nora Boisonnier, est-ce que vous voulez répondre ou est-ce que je vous pose une...
Non, non, parce qu'on va pas du tout être d'accord.
Vous êtes pas d'accord.
Alors sur la dimension dystopique, justement le moment où voilà où la série se dit là maintenant, je vous ai présenté le réel, vous êtes manipulés, voilà comment ça se passe, voilà les rouages, les mécaniques, la fabrique de l'opinion, etc. Maintenant on va envisager le pire. Et si en fait la guerre civile était possible et si la fièvre en fait elle était là?
Et là, moi, ce que j'ai aimé, justement, sur l'aboutissement de cette dystopie, cette pensée catastrophiste qui va jusqu'au bout. En fait, Benzekri, il y a un feu, il jette de l'huile, et puis il rejette de l'huile, et puis il rejette de l'huile, et puis il va jusqu'où ça va. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en revanche, dans cette série, qui m'a aussi déçue, c'est vrai, c'est l'écran dans lequel elle est produite. C'est-à-dire que c'est une série Canal+. Aujourd'hui, Canal+, c'est l'empire, c'est un empire bolloréen. Et dans cet empire, il y a C8, il y a CNews, il y a Canal+, il y a Europe 1, il y a beaucoup, beaucoup de médias. Ces médias, ce ne sont pas les seuls, hein, puisqu'on voit aussi mise en scène le service public, on voit France Inter, qui est dans la série.
On voit Claude Ascolovitch.
Voilà, on voit aussi France 2 dans la série, on ne dira pas pourquoi, évidemment, mais on voit l'émission de Cyril Hanouna. Et puis on voit la radio, on voit les éditorialistes qui jettent eux aussi de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre cette série en dehors du contexte actuel aussi, extrêmement politisé, extrêmement idéologisé, d'une concentration des médias qui donne, qui facilite en tout cas cette dystopie, qui facilite cette division totale, cette hyper-réaction. Et je me suis demandé si le fait qu'on ait une réalité comme ça avec ces médias qui existent et avec des figures qui existent vraiment, on a des journalistes, on a le Canal Football Club aussi qui est représenté avec Hervé, les vrais journalistes en fait qui le présentent. Et je me suis demandé, est-ce que ce qu'on trouve qui sonne faux, ce qui semble artificiel, n'est pas une dénonciation par la forme de cette forme de théâtralité du débat médiatique? Je me suis demandé, est-ce qu'Éric Bensekri, c'est pas finalement son propos et son but de produire une série qui est à la fois une forme d'hyperfiction en fait?
On peut se poser aussi la question d'ailleurs avec le personnage de Marie Kinski qui est interprété par Anna Girardot, qui fait une stand-upeuse d'extrême droite, voilà, qui peut rappeler, moi j'ai pensé à l'humoriste Marie Saint-Filtre, si tant est qu'elle se présente comme humoriste, mais qui finalement fait un humour voilà de droite, et on voit une sorte de décalage. On voit Annie Girardot en train de jouer, en fait, cette personne. On ne la voit pas complètement adhérer à ce personnage, ce qui n'est pas le cas de Nina Meurice avec Samuel Berger. Hein, pour finir sur l'interprétation, sur justement ce positionnement et cette scène de peuse Marie Kinski.
Oui, je suis assez d'accord. Et le problème de ce personnage-là, où on peine à adhérer au jeu de l'actrice qui elle-même peinerait à adhérer à ce qu'elle est en train de raconter, je suis d'accord qu'il y a une espèce de petit décollement. C'est celui de toute la série pour moi. Parce qu'une fois encore, les lunettes de la série, c'est-à-dire les lunettes des chercheuses, des têtes, des auteurs, sont vraiment... Vraiment, c'est plein d'acuité, c'est très bien fait. Mais, c'est-à-dire que dans le portrait des périls du 21e siècle qu'on est en train de connaître, qu'on est en train de traverser, qui nous font peur, tout ça est très bien fait. Sauf que, et c'est là que vraiment, je suis pas trop d'accord avec la lecture hyper textuelle de l'objet. Je pense que le vraiment, il y a des gros problèmes d'interprétation qui ne plaident pas pour une candeur voulue, mais une vraie candeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la série essaie quand même de trouver l'antidote à toute cette inflammation, à toute cette situation inflammatoire. Donc un antidote à ce qu'il est en train de se passer dans le 21e siècle. Et l'antidote, c'est quoi ? Je vais pas dévoiler la fin, mais l'antidote, en fait, c'est de se replonger dans le passé à une espèce de idéal de société qui nous renvoie au 20e siècle, à une société d'avant les réseaux. Et ça, c'est extrêmement candeur, c'est extrêmement candide. Non seulement c'est candide, mais en plus, c'est fait toujours dans selon le même traitement un peu, pardon, mais cliché, naïf, et qui ne plaide pas pour le sérieux de la série.
Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement.
Toujours plus hard, toujours plus de buzz.
C'est un cauchemar.
Ils ont trouvé un martyr avec leur faudé. Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc.
C'est qui, oh ?
Le foot, c'est une digue. Si ça cède, tout y passera.
Vous pensez que je vais m'en sortir ?
La série La Fièvre, créée par Eric Benzekri, réalisée par Ziad Douairi, avec notamment Nina Meurice et Anna Girardot, c'est sur Canal+.
12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent d'Outreau, un cauchemar français sur Netflix, réalisé par Camille Le Pomélec et Marika Mathieu.
Ce mardi, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, la terrifiante affaire d'Outreau, 17 adultes, dont 6 femmes et quelques notables, comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants.
Entre 1995 et 2000 à Outreau, dans le nord de la France, des enfants sont victimes d'agressions sexuelles. 18 personnes sont mises en examen, la plupart maintenues en détention provisoire pendant plusieurs années, certaines clamant leur innocence. En 2004 et 2005, 2 procès ont lieu. C'est avec ces phrases liminaires que s'ouvre cette nouvelle série documentaire Netflix sur l'affaire d'Outreau, s'inscrivant dans le genre True Crime et produite par la même équipe que la série sur l'affaire Grégory. À l'écran, 4 épisodes qui reviennent sur les origines et sur l'ampleur qu'a prise Outreau, inaugurant les débats que l'on connaît aujourd'hui sur la parole des enfants et la présomption d'innocence. Ici, les témoignages s'enchaînent, le juge Burgot, convaincu de l'existence d'un réseau pédocriminel, les avocats de la défense, dont Éric Dupond-Moretti, Paul Vesch a quitté, et la parole d'un seul des enfants, Jonathan Delay. Et c'est au spectateur de se faire son idée. Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni ?
Alors,
après l'enfance des séries américaines, enfin françaises.
Quand on regarde une série et qu'on est critique, par exemple, on se pose plusieurs questions. On se pose d'abord la question de l'intention de cette série. Pourquoi, en un mot, et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Pourquoi elle arrive à ce moment-là ? Deuxième chose, on pense au contexte. On ne peut pas analyser, critiquer une œuvre sans penser au contexte. Alors, cette série, elle est problématique sur énormément de points, notamment. D'abord, son intention, c'est-à-dire qu'elle est sous-titrée « Un cauchemar français ». Le cauchemar est, dans cette série, celui des acquittés, celui de plusieurs adultes qui ont été accusés à tort, pour la plupart, d'actes pédocriminels et qui ont été, pour certains et certaines, emprisonnés 1 an, 2 ans, donc des durées quand même assez catastrophiques. Personnes qui ont reçu réparation de l'État, on le voit à la fin, on a la somme qui s'affiche. Le cauchemar français, il est ailleurs pour moi. Le cauchemar français, il est dans le fait qu'on nie complètement l'existence de 12 enfants victimes. Je voudrais quand même qu'on rappelle le contexte. On est en 2024, on n'est plus en 2000, 2003, 2005. Il y a déjà eu un documentaire sur France 2, sur Outreau. Aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a non seulement, on n'a pas d'éléments inédits à apporter à cette affaire, donc je me demande déjà pourquoi cette série arrive aujourd'hui. Deuxièmement, on a un contexte où la parole sur l'inceste est en train d'émerger, d'exister à travers des podcasts, à travers des livres, des prises de parole médiatiques. On parle beaucoup de la Civise en ce moment. Je rappelle quand même les chiffres qui sont 160 000. Enfants chaque année victimes de violences sexuelles, c'est 1 toutes les 3 minutes. Il y a 5,4 millions de personnes adultes en France qui ont subi des violences avant l'âge de 18 ans, violences de la part d'adultes. Et je trouve ça irresponsable, indécent et honteux de commencer d'ailleurs une série avec ce qui est un teaser de l'épisode 4, où on a des avocats qui disent, je cite, « On a trop sacralisé la parole des enfants, les enfants aussi peuvent mentir ». Et en fait, le cauchemar français, pour moi, il est dans la dénégation de l'existence de ces 12 victimes qui n'existent à aucun moment de la série et qui font l'objet, sans être jamais nommées, d'un carton final où on voit que leur réparation n'a pas atteint celle, on parle de réparation financière, des victimes acquittées. Et ça, voilà, pour moi, il y a un gros problème là-dessus.
Adrien Desnouettes, sur cette série.
Je me suis effectivement posé la même question, notamment celle du contexte, parce que moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que Netflix produise un outro, sachant qu'il n'y a pas que celui de France 2 l'année dernière. Il y a quand même beaucoup d'épisodes de Faits divers, Christophe Andelat, Faites entrer l'accusé, Myriam Badawi, la menteuse, des choses qu'on a vues, en fait, ces 10 dernières années.
Myriam Badawi, qui est donc la mère, voilà, de la famille Delay, d'où part, en fait, l'histoire
d'outro. D'où part toute la fabulation, en fait, oui. Sur laquelle s'est arrêtée la vérité judiciaire. Et je me suis posé cette question, et je me suis quand même posé la question de où c'était fait. Donc, c'est fait chez Netflix, hein, c'est une série Netflix. Et l'ambition de Netflix, la stratégie de Netflix, et j'y réponds comme ça, en fait, c'est dans chaque pays où Netflix est installé, donc la France, de faire du local, de produire local, produire français, et de l'exporter à l'international. C'est évidemment
oui,
la vocation de Netflix.
Il y a une dimension internationale, ça c'est
donc
sûr.
En fait, Netflix, ils n'en ont rien à faire quelque part, que France 2 ait déjà fait un outro. Ils vont plutôt s'emparer de ce qu'on sait très bien faire, parce que le France 2 était très bien, et puis ils vont faire leur outro pour le marché international. Ça dit plusieurs choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Bref, mais qu'est-ce qu'elle apporte cette série-là? Moi, je l'ai plutôt appréciée. Vraiment, je me suis pris... Je suis pas un très très grand spectateur de True Crime. Je connaissais évidemment l'affaire Outreau, j'avais vu les Faits entrer l'accusé. Mais j'avais pas vu celui de France 2 que j'ai récupéré. Et celui de France 2 s'arrête vraiment justement encore plus à la vérité judiciaire, qui est celle, en fait, d'une justice française qui en a marre d'être elle-même jugée et qui veut s'en arrêter à une vérité judiciaire. Alors, stop.
Juste sauf pour le dire, Adrien, je vous coupe. Pour le dire, ce documentaire de France 2 avait pris le parti de donner la parole à 4 acquittés, donc c'était vraiment ceux qui avaient été victimes d'accusations mensongères. Là, on en entend une seulement dans le documentaire Netflix, mais c'est pour dire qu'il y avait quand même un angle dans le documentaire France 2. Voilà.
L'angle qui était extrêmement à charge contre, probablement très à raison, contre le juge Burgot. Oui. Sauf que là, Netflix va un peu jouer son rôle de contradictoire, un petit peu, hein, pas énormément, mais un peu jouer son rôle de contradictoire en allant un peu faire tourner le documentaire autour du juge Burgot. Ils ont le juge Burgot, donc ce fameux juge qui a écouté Myriam Badawi et qui a fait en fait, qui a été à l'origine de la montée en épingle de l'affaire pour des raisons médiatiques principalement. Et donc on écoute le juge Burgot. Et donc Netflix quelque part essaie quand même, je trouve, d'entretenir un peu plus la confusion autour de la vérité et du mensonge, autour de cette vérité judiciaire. Je trouve que la fin, justement, le 4e épisode, donne un peu plus quand même la parole à ce fameux Jonathan Delay, qui est la dernière des victimes enfants à le plus prendre la parole et à le plus dire... Alors voilà, je ne veux pas... la série elle-même ne tranche pas, mais qui le plus est revenu sur justement le documentaire France 2 en disant « Attendez, la série est sacrément à charge contre notre parole. Moi, j'ai jamais été d'accord avec l'acquittement et j'ai jamais été d'accord avec la vérité judiciaire. » Je ne dis pas qu'il a raison ou quoi. Mais le parti pris de la série de Netflix, c'est de dire « Terminons la série sur Burgot, terminons la série sur la parole de Jonathan Delay. » Et donc, quelque part... laissons suspendre un doute. Et donc, quelque part, et Nora a entièrement raison de replacer cette série dans un contexte qui est celui de la libération de la parole, toute dernière, où on est en train de, quelque part, subir le contre-coup de l'affaire Outreau, où on avait jeté un éteignoir autour de la parole des enfants. Et donc, en fait, elle est quelque part arrivée, l'affaire Outreau a été un gros, gros problème dont on mesure aujourd'hui les conséquences, qui est d'avoir discrédité la parole des enfants. Et donc, quelque part, ici... un autre média qui est une plateforme assume le rôle de la télé qui a été celui non seulement de monter en épingle mais aussi de jouer le jeu de du désir qu'il se passe quelque chose et du désir de raconter tout ça. En fait, c'est le rôle de la télé. Le rôle de la télé, c'est d'entrer aussi dans l'espace judiciaire.
Nora Boisoni, sur cette lecture que propose Adrien, où justement, en donnant la parole à Fabrice Burgot, qui est donc ce juge d'instruction qui a été extrêmement attaqué par son inexpérience, par le fait qu'il a beaucoup écouté Myriam Badawi avec certaines choses qu'elle a dites qui n'étaient pas vérifiables, qui n'ont pas été vérifiées, qui donc ont permis l'acquittement des personnes. On pourrait dire effectivement que là, on a quand même une série qui peut proposer d'entendre une autre version que celle qu'on a eu avec la vérité judiciaire, ou pas du tout?
Mais je ne trouve pas. Le juge Burgot, il se défend mollement, et c'est un euphémisme, hein, mollement. On a un homme qui, clairement, physiquement, il est brisé, ça se voit. Il a le visage, il est exsangue cet homme, en fait, il est fatigué, je pense qu'il va mal psychiquement. Et on a un homme qui se défend mollement, où d'ailleurs on finit par entendre beaucoup les questions des journalistes, parce qu'il ne rebondit pas dessus, donc on est obligé d'avoir cette voix qui arrive un peu de nulle part, parce qu'en fait il ne répond pas aux questions. Cet homme ne regarde pas la caméra, il regarde dans le vide, il regarde ses pieds. La seule phrase que je retiens du juge Burgot, qui refuse aussi de répondre à des questions et de remettre peut-être en question sa position à l'époque, la façon dont il a traité l'affaire, dont il a trop cru Myriam Badawi. La seule phrase, moi, que je retiens, effectivement, celle de l'épisode 4, à la toute fin, où il dit « Moi, j'ai une pensée pour les enfants victimes ». Et le fait que ce documentaire s'achève sur cette phrase qui dit seulement qu'on a une pensée pour les enfants victimes. Alors oui, on n'a que Jonathan Delay. Peut-être que les autres n'ont pas voulu témoigner tout simplement. Et ça, ça les regarde.
Oui, parce qu'il n'explique pas quand même qu'on n'explique pas comment on passe de 4 enfants de la famille Delay à 12 enfants.
Exactement. Mmh. Il y a cet oubli, justement, qui est volontaire. Pour moi, ce documentaire n'a pas de... Déjà, je trouve formellement, il n'a pas de point de vue. Je le trouve extrêmement mal écrit. Je trouve qu'il est bâclé d'un point de vue formel. Un docu, ça s'écrit, c'est pas juste des gens qui vont parler comme ça. Et puis on a, l'autre côté de Burgot, on a les avocats flamboyants, ultra médiatiques, très bons clients, comme on dit, qui vont être au théâtre, hein, ils sont là pour se défendre. Et je trouve qu'au niveau point de vue, il aurait été quand même beaucoup plus moderne et respectueux de parler plutôt de ces 12 enfants, plutôt que de les acquitter une énième fois.
Outro, un cauchemar français, c'est sur Netflix. La production, c'est Elodie Polo Ackerman, Jean-Paul Géronimi, Anna Kouak, réalisateur Camille Le Pomelec et Marika Mathieu. On arrive à la fin de l'émission, mais Nora, vous aviez envie de parler d'une série sur Arte. Juste, je vous propose de nous mettre dans cette ambiance de cette série qui s'appelle Samuel.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Julie, c'est pas que je l'aime, c'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps, donc j'ai dit à Basile que je trouvais ça sympa de sa part. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir, même pas Corentin. Corentin, c'est mon meilleur pote, je précise.
Samuel sur Arte Télé, Nora, parlez-nous de cette série.
C'est une série animée d'Émilie Tronche qui dessine, qui réalise, qui anime, qui fait les voix des enfants. C'est l'histoire de Samuel, 10 ans, il est à l'école, il raconte sa vie à l'école, la grande Gilles dont il est amoureuse, la méchante de la classe, son meilleur ami, font des descentes à vélo sur la descente de la mort. C'est 21 épisodes de 5 minutes, c'est drôle, c'est tendre, c'est touchant. Pour moi, c'est une des séries de l'année. Regardez-la, c'est sur arte.tv.
Merci beaucoup Nora Boisouni, vous avez résumé parfaitement et très rapidement cette série. Merci beaucoup à vous aussi Adrien Desnouettes. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.